Je vais vérifier ça.
Je vais passer ce coup de fil.
Je vais le maintenir en vie. Le maximum de temps.
Je vais déjeuner.
Libre Radio, la radio qui remet le couvert. www.libradio.org.
Voilà, nous le disions, hein, c'est toujours un petit peu le trac quand on entre en, quand on entre dans une émission. Mais voilà, c'est les conditions du direct. Sauf que voilà, on aura peut-être matière à couper des petites choses si tout d'un coup on se trompe gravement dans nos propos. Alors, la Fondation Secours Humanitaire, tout de suite on commence. www.secourshumanitaire.ch, ça c'est le site internet. 13 ans d'expérience dans le travail humanitaire, c'est ce qui est indiqué sur le site. Je vais dire trois mots. Là sur la du site, sur la page sur laquelle je suis, et puis ensuite Zerka, tu nous raconteras tu nous en diras un peu plus sur cette association. Alors Gaza, 12 ans de blocus, 12 ans depuis qu'Israël a assiégé la bande de Gaza par terre et mer et entrave la circulation des personnes et des marchandises. 2 millions est le nombre des habitants de Gaza, 2 millions de personnes. 43% sont au chômage, 80% dépendent des aides humanitaires, 60% souffrent de l'insécurité alimentaire, 97% de l'eau disponible est non potable, alors qu'il fait chaud, clairement. 50% des enfants palestiniens ont besoin d'une aide psychologique et sociale, 45% des médicaments essentiels ne sont pas disponibles. 18 à 20 heures, c'est les heures de coupure d'électricité chaque jour. Ça, c'est 12 ans de blocus. Ça veut dire que des enfants qui ont 12 ans, 13 ans maintenant, n'ont pas connu autre chose que ça.
Ils n'ont pas connu autre chose que ce système-là, effectivement. Un enfant de 12 ans a connu trois guerres. Hein. Donc, c'est un petit périmètre tout petit, comme le canton de Genève à peu près. Mm-hmm. Il fait Gaza. C'est de long, en fait, c'est 12 kilomètres, il me semble. Et puis de largeur, en fait, ça entre 4 et 2 kilomètres. C'est vraiment tout petit, un petit périmètre. Et puis, il y a eu trois guerres vraiment, vraiment, je dirais, très fortes, très grandes, grosses guerres, en fait, qui ont traumatisé les enfants. Donc, ces enfants qui ont 11, 12 ans n'ont pas connu d'eau potable, vraiment potable. En fait, ils n'ont pas connu deux journées où il y avait plus de 8 heures en fait de courant d'électricité d'affilée.
Continue, ouais.
Voilà, continue. Et ils n'ont pas connu en fait la tranquillité d'esprit. Alors, vous avez parlé de chômage tout à l'heure pour 43%. Les jeunes sont à 57% hein, touchés par le chômage. Donc voilà, la situation est très très difficile, très invivable. Dans ce périmètre, il y a effectivement entre 1,8 million ou alors 2 millions de personnes qui vivent entassé, j'ai pas d'autre mot à dire que entassé, en fait.
C'est ça, c'est que c'est une extrême forte densité d'habitants, de personnes.
C'est l'une des plus fortes au monde.
Ouais, ouais. Alors, si, Zerka, d'abord, bienvenue et merci d'être avec nous, merci de nous consacrer du temps.
Merci de nous avoir invités.
Ben, avec beaucoup de plaisir. Et puis, une personne t'accompagne, peut-être voulais-tu la présenter ?
Oui, alors c'est Elsa Sylvestre. Elle vient de commencer un stage chez nous, en fait. Elle est étudiante à l'école Thunon. L'école privée, en fait, d'hôtesse ou d'hôtellerie également.
D'accord.
Et d'événementiel. Et du coup, elle vient juste de commencer un stage chez nous. Et puis, elle découvre un peu comment on travaille. Parce que nous aussi, également, on organise des événements et tout ça. Et donc, ça permet de leur donner une petite expérience, en fait, des événements solidaires.
Voilà. Et ça nous permet de dire que dans la fondation, au sein de la Fondation Secours Humanitaire, eh bien, la formation a sa place également.
Oui. Voilà, oui, on ça... donne vraiment la priorité, en fait, à des stagiaires. On a eu trois stagiaires, en fait, depuis le début de l'année. Donc, on essaie de les former. Autant on profite de leur expérience qu'eux, ils profitent de notre expérience. Donc, ouais. Voilà.
C'est parfait. C'est win-win, voilà.
C'est win-win.
Alors, ce que je te propose, Zerka, c'est qu'on fasse un entretien en deux parties, avec une première partie où on essaierait de tracer les contours de cette situation à Gaza pour que les personnes qui vont écouter cette émission se rendent vraiment compte, justement, de la situation qui a cours à Gaza en ce moment. Comme tu l'as très bien commencé, hein, en situant la bande de Gaza, en expliquant justement cette densité particulière et voilà, ben, et ce qui s'y passe. Et puis une deuxième partie, on parlera vraiment stricto sensu de la Fondation Secours Humanitaire, des postures de la Fondation et de ses desseins, mm-hmm. de ses aspirations, de ses projets et campagnes. Est-ce qu'on y va comme ça ?
Oui.
D'accord. Ça va. Alors, on va y aller comme ça. Alors, tout d'abord, eh bien, Gaza, comme tu l'as dit, c'est une toute petite bande de terre, effectivement,
oui.
de la taille environ du canton de Genève,
oui.
dans lequel il faudrait s'imaginer 2 millions d'habitants, ce qui est
c'est
incroyable.
Ça. C'est ça.
Pourrais-tu nous dire quelques mots de la composition de cette population-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Quelles classes d'âge sont plus représentées ? Ou ça, c'est des chiffres que tu ne connais pas par cœur, je veux dire,
alors,
ce serait normal, hein ?
Il y a une grosse proportion de jeunes, en fait. Je me semble que j'ai vu, ça devait être dans les 60 vraiment % de jeunes de la population qui ont moins de 30 ans, en fait. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme, 60% de la population qui ont moins de 30 ans. Voilà, la composition, donc ils sont, comment dire, comme je disais tout à l'heure, 57% de jeunes qui sont au chômage, donc 43% de chômage au niveau général. L'économie qui est stoppée, qui ne voilà, qui fonctionne pas à cause du blocus. Et puis les pénuries, les coupures régulières, en fait. Mmh. Donc la population, elle est traumatisée, puis elle est complètement enfermée. C'est, la bande de Gaza, c'est vraiment une prison à ciel ouvert. Enfin, je ne dirais même pas c'est à ciel ouvert, parce que même le ciel, il les contrôle et ils n'ont même pas le droit, en fait, de survoler, en fait, le territoire. Donc ils n'ont pas le droit de pêcher, ils ont vraiment un périmètre, voilà, très très limité. Ouais. Voilà.
Alors voilà, justement, on va essayer de parler un petit peu justement de chacune de ces choses. Alors, comme tu l'as dit, les déplacements, c'est problématique parce que on ne peut pas sortir comme ça de la bande de Gaza.
Non.
Voilà. Et même
on ne peut pas y rentrer.
On peut pas y rentrer non plus, et que donc évidemment, eh bien, les interactions sont extrêmement limitées.
Bah, en fait, on s'imagine, moi j'habite, je suis frontalière, hein, j'habite, oui, à Bellegarde, donc c'est à peu près 40 km entre Bellegarde et Genève. Et en fait, un enfant, enfin les gens, les habitants de Gaza, ils n'ont pas le droit d'aller au-delà. En fait, moi, c'est ce que je fais tous les jours pour venir au travail. Mmh. Et eux, en fait, toute leur vie, ils sont enfermés dans un périmètre aussi grand que ça, en fait. Donc, c'est juste inimaginable. C'est une situation que nous, on ne supporterait absolument pas. Hein,
tout, ah bah, c'est clair. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est que les gens doivent bien se rendre compte qu'une journée à la montagne, ici, en Valais, eh ben, là-bas, ce n'est pas possible de se déplacer.
Non, ce n'est pas possible, voilà, en fait. Hein. Ils mettent une heure, en fait, pour faire du nord au sud. Hein, donc, mmh. Et puis, ben... Voilà, ouais, pour faire d'une extrémité à l'autre. Donc c'est vraiment, vraiment limité. C'est pas juste question humanitaire, c'est vraiment une question aussi également... Voilà, je vais pas rentrer dans le politique, mais ça reste aussi dans le politique. Bien Il y a sûr. Une force extérieure qui empêche les gens de rentrer, les marchandises de rentrer. Effectivement, il y a un contrôle également sur les marchandises, et donc qui empêche les gens de sortir, notamment les malades, hein, également, qui souffrent.
Bah voilà, j'allais venir. Alors les hôpitaux, les soins, comment ça se passe à Gaza? Lorsque, ben voilà, ça peut être effectivement des soins, alors des plus gros soins, aux soins les plus simples, et puis même quand ce n'est pas des soins, mais voilà, par exemple une femme enceinte qui doit accoucher, j'imagine que déjà là ça peut poser problème si tout d'un coup l'accouchement est un petit peu délicat.
Il y a de gros problèmes. Le domaine de santé, je crois, c'est un des plus impactés par le blocus. Le budget, en fait, des autorités n'est simplement pas suffisant, en fait, pour subvenir aux besoins de la société. En plus, donc, il y a les maladies normales que toutes les sociétés connaissent, mais eux, ils ont des maladies en plus que cette situation, ce blocus, cette situation humanitaire aggravée, en fait, engendre. Donc, il y a tous les problèmes psychologiques qui ne sont jamais pris en charge. Les autorités n'ont pas du tout le temps de prendre l'argent et le temps, l'énergie de prendre en charge toutes les questions psychologiques. Et après, les médicaments, il y a une pénurie de médicaments. J'ai un petit chiffre, en fait, au niveau des médicaments, il me semble... Alors, j'ai une mémoire...
Non, mais c'est bien normal, on ne peut pas tout retenir.
Voilà, en 2015, apparemment, environ 30% de médicaments essentiels et 25 à 30% du matériel médical n'étaient pas disponibles. Donc, c'est des médicaments, ce n'est pas juste des pansements, c'est vraiment les médicaments les plus importants qui n'étaient pas disponibles. Donc, dans un état où il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des pénuries ou des problèmes, ça pose problème.
Ça veut dire que des personnes qui, typiquement, ont des maladies chroniques, le diabète ou des choses comme ça, eh bien, sont évidemment dans des situations en péril, vraiment dans un grand péril.
Oui, ils sont dans un grand péril, ils n'ont pas accès à tous les médicaments, ils n'ont pas accès aux soins. Les hôpitaux, sont dans des états laborieux, et ils ne peuvent pas aller se faire soigner à l'étranger. Donc les autorisations, elles sont données au goutte à goutte. Donc c'est vraiment, vraiment des cas limités qui peuvent aller en Israël pour se faire soigner, ou alors en Égypte, encore moins en Égypte maintenant. Ouais, parce que, voilà. Ouais.
Alors voilà, j'allais te poser la question sur Israël et l'Égypte un petit peu plus tard, mais juste avant ça, je voulais qu'on continue justement à égrener un petit peu par thème pour que vraiment les gens se fassent... C'est toujours très compliqué de se faire vraiment une idée réelle, réaliste de la situation qu'endurent certaines personnes. On vient de parler des hôpitaux et des soins extrêmement compliqués, des maladies chroniques qui donc évidemment ne sont pas suivies, enfin, ça c'est vraiment extrêmement dramatique. Qu'en est-il de l'école, par exemple? Alors, l'école, est-ce que là aussi c'est très compliqué? Et la question, le deuxième volet de la question, c'est qu'en est-il des statistiques qui nous en diraient plus concernant éventuellement l'illettrisme ou des choses comme ça, du fait que l'école ne pourrait ne pas être accessible?
Alors, pour l'éducation, effectivement, bon, c'est touché par c'est impacté également par le blocus. Hein, donc, forcément, les écoles manquent de moyens, les autorités manquent cruellement de moyens. Il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir payer des professeurs ou alors pour avoir des établissements qui sont corrects et puis qui sont, voilà, dans lesquels on peut donner des cours de manière efficace en fait. Ouais. Et également, à côté de ça, en fait, la population, elle a la rage d'apprendre, elle a vraiment, vraiment cette rage de réussir parce qu'elle n'a que l'éducation pour s'en sortir, c'est le seul moyen en fait pour se faire entendre et pour s'en sortir, de sortir de cette situation. Le taux d'alphabétisation, c'est l'un des plus élevés au monde, hein, donc ouais. Pas à Gaza, mais en Palestine en général, donc ça doit être 92% en fait de la population qui est illettrée, donc c'est vraiment, c'est leur seul moyen de s'échapper de ça. Et sinon, au niveau de l'éducation, il y a également l'UNRWA en fait qui donne des cours. Donc l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies en fait qui s'occupe des réfugiés. C'est un peu l'équivalent du HCR, mais qui est spécialisé que dans la question palestinienne, que pour les Palestiniens. Et du coup, ils interviennent dans tous les camps de réfugiés, sachant que après la création d'Israël, il y a énormément de Palestiniens qui ont fui les territoires actuellement occupés par Israël, et donc ils sont partis à Gaza. Donc il y a 70% de la population des enfants de Gaza qui ont tous bénéficié de l'école de l'UNRWA en fait.
Ah ouais.
Donc c'est une des forces, c'est grâce à l'UNRWA, je dirais, que l'éducation elle a pu être un petit peu assurée en Palestine.
D'accord. Alors justement, dis-moi, qu'en est-il de la société civile ? Est-ce que la population arrive tout de même, malgré le fait d'être impactée de cette manière-là, à s'organiser d'une certaine manière, à trouver des astuces, des combines, de l'entraide qui permettent d'une certaine manière de survivre dans cette situation ?
C'est très difficile, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de s'adapter. 80% de la population de Gaza dépend de l'aide humanitaire. Donc, c'est ça. Si on n'est pas là, en fait, si l'aide internationale n'est pas là, ils ne pourraient pas tout simplement s'en sortir. Ouais. Donc, eux-mêmes, ils essayent d'avoir des initiatives. Ils font tout. Enfin, comme je disais, l'éducation, c'est un de leurs points forts. Et puis, ils sont très, très bons au niveau ils sont très au courant, en fait, de leur droits, en fait, des droits humanitaires, parce qu'ils en ont souffert. Ils ont souffert de la privation. Et donc, ils se donnent au maximum pour pouvoir, en fait, sortir, se faire entendre leur voix. Mais sans l'aide internationale, il serait limité malgré tout.
Est-ce que tu as la sensation, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai l'impression de pas avoir les informations de ce qui s'y passe exactement, de pas avoir la mesure de ce qui s'y passe. Ça c'est peut-être juste moi qui suis pas allé regarder, chercher, parce que l'information existe, ou est-ce qu'il y a un problème de relais, de courroie de transmission, et qu'il y a une situation qui est méconnue d'une certaine manière?
Il y a énormément de choses, il y a énormément d'informations sur la question. D'accord. Il y a vraiment énormément. Et je dirais même qu'il y en a même trop, en fait. Donc, du coup, après, on a du mal à sélectionner l'information qu'on
veut.
Donc,
l'information est disponible.
Mais l'information est disponible quand on sait où chercher. Dans les médias mainstream, je dirais, en fait, ça reste une information qui est un peu édulcorée, je dirais. Parce qu'on fait attention, on a quand même de l'autre côté quelqu'un, un opposant qui nous empêche et puis qui empêche toutes les voix contraires de s'exprimer. Les médias mainstream, ils font attention à cet opposant, et donc ils sont un petit peu plus soft dans leur façon d'écrire la situation. Mais sinon, à côté, il y a toutes les associations, même l'ONU, en fait, on regarde le site de l'ONU, ils sont très clairs sur la situation. Donc c'est clair que ce qui se passe en Palestine, c'est juste catastrophique.
Absolument, absolument. Pourrait-on dire, alors c'est une question un petit peu, on verra si tu y réponds pas, mais comment s'organise une journée habituelle d'une famille palestinienne à Gaza? Ce que je veux dire, c'est qu'avec tous ces problèmes-là, il faut penser à ce que les enfants, alors certains aillent à l'école, il faut trouver de l'eau potable, il va falloir trouver de la nourriture, alors peut-être quelqu'un a un emploi, peut-être quelqu'un pas. Enfin, voilà, comment ça se passe dans les faits, une journée habituelle à Gaza? Est-ce qu'on vit quand même dans la peur? Est-ce qu'on arrive à regarder l'avenir en se disant des choses vont changer, on va pouvoir prendre nos destins en main? Qu'est-ce qui habite les populations de Gaza? Est-ce qu'il y a pour peut-être les aînés une forme de résignation, ou au contraire de la résistance qui est toujours très vive? Et pareil pour les plus jeunes, qu'en disent-ils?
Alors, ils vivent dans une situation très difficile, donc ils n'ont pas d'autre choix que l'espoir, en fait. Ils ont vraiment cet espoir de un jour se libérer et puis libérer leur territoire. Et c'est ça qui vraiment leur donne tous les jours la volonté de toujours continuer, de se réveiller le matin et puis d'aller affronter en fait ce quotidien qui est très difficile à l'école, de réussir à l'école, de nous faire en sorte pour pouvoir réussir professionnellement, même malgré les difficultés. Après, comment dirais-je, j'ai pas vécu là-bas, donc je pourrais, même tous les mots que je décrirais en fait ne suffiraient pas à exprimer une journée réelle, comment elle se passe là-bas. Avec nous, moi, je n'imaginerais pas une journée avec une coupure d'électricité de 2 heures, par exemple.
Exactement.
C'est juste pas possible.
Exactement.
Enfin, mon frigo, j'imagine tout de suite que voilà, je devrais tout mettre. C'est juste, voilà, peu importe comment je vais décrire comment ils vont vivre, on n'y arrivera pas à comprendre réellement tant qu'on ne l'aura pas vécu nous-mêmes.
Absolument. Quel est le type de contact que la Fondation Secours Humanitaire, justement, a avec les personnes sur place? Est-ce que, voilà, alors, parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'entretien sous peu, mais est-ce que vous arrivez avoir des rapports réguliers, et puis on sait, voilà, on a des contacts, donc on sait qu'on va pouvoir amener des médicaments ou amener des matériels, et puis que, comment ça se passe?
Alors en fait, ramener du matériel là-bas, c'est tout simplement impossible avec le blocus qu'il y a. Donc on a vu avec la flottille de la Liberté qui effectivement ça pose un problème, mais donc on évite de ramener du matériel. Non seulement ça coûte très cher, juste pour le transporter là-bas, ça coûte très cher. Donc, et puis c'est pas possible, c'est même pas garanti que ça arrive en fait au destinataire. Donc on se limite vraiment à envoyer une aide financière, et sur place, voilà, on fait en sorte que ce soit distribué, si c'est l'argent qui est remis directement, que ce soit distribué aux bénéficiaires, ou alors si c'est un matériel, que ce soit acheté puis distribué aux bénéficiaires. Donc on travaille essentiellement avec des partenaires sur place, des associations qui sont sur place et qui, elles, vont contacter directement les bénéficiaires. Donc ça permet, le fait d'envoyer de l'argent là-bas, ça permet également de soutenir l'économie locale malgré tout. Donc au lieu d'acheter ici le matériel, on les achète directement là-bas, et puis de faire tourner l'économie qui est très limitée.
Alors, tu l'as dit, et ce sera la dernière question pour cette première partie. Tu as évoqué la flottille. Je crois qu'il y en a une deuxième d'ailleurs qui se met en place et qui devrait partir dans pas longtemps, semble-t-il.
Il me semble qu'ils ont commencé à partir. J'ai vu à Paris qu'ils avaient été bloqués, mais ils sont partis en fait de plusieurs états. Après, je ne sais pas où ils en sont pour l'instant.
En tout cas, voilà, c'est bien. On se tiendra du coup informé à ce propos-là. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a un blocus qui effectivement concerne la terre, puisque les frontières sont fermées.
Oui.
L'air, puisque l'air survol est interdit. Et également la mer, alors qu'il y a effectivement, j'imagine, il y a tout un front de mer.
12 miles.
Voilà, et qui, dans lequel on ne peut pas dépasser. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'eau dans lequel on peut aller pour se baigner et éventuellement pêcher. Mais qu'on ne peut pas aller plus loin.
Il y a des gardes-côtes, en fait, ils tirent, en fait, c'est leur premier réflexe. Hein, c'est vraiment tirer sur les pêcheurs dès qu'il y a quelqu'un qui dépasse cette distance-là. Donc les pêcheurs, ils ont juste 12 miles. Pour pêcher, sachant que voilà, 12 miles c'est pas suffisant. Le poisson, maintenant, je suppose qu'il y a plus grand chose là-bas à pêcher.
Exactement.
Ouais. Donc ça limite vraiment leur mouvement. Il y a également sur les terres, il y a les frontières qui sont limitées, mais il y a également une no man's land en fait. Donc ça, c'est plusieurs kilomètres entre la frontière, les gardes, enfin la douane, je dirais en fait israélienne, et puis le lieu où les populations, elles peuvent partir. Donc ça fait vraiment une zone tampon où les Palestiniens n'ont pas le droit d'aller. Donc ça limite encore plus le périmètre de vie, ou alors de survie plutôt.
De survie, c'est le bon mot. Et dis-moi, les frontières terrestres sont-elles également gardées par des hommes en armes? Est-ce à dire que justement le pourtour complet est vraiment gardé par des soldats en fait?
Ah, mais c'est gardé par des hommes armés, mais là vraiment bien armés également. Donc là, il y a depuis mars, il y a un mouvement qui a commencé, un mouvement qui demande en fait le droit au retour en fait des réfugiés.
Tout à fait.
Et on est arrivé à plus d'une quarantaine de morts juste vendredi dernier. Il y a encore eu 2 morts parce qu'en fait ces rassemblements, ils se font justement à la frontière, et sachant que il y a presque un mur qui est construit, il y a des murs qui sont construits, donc il y a des barbelés, il y a des gens qui sont tout simplement armés jusqu'aux dents, et en face il y a juste des personnes qui manifestent, et malgré tout ils n'hésitent pas à utiliser leur arme en fait pour les stopper dans leur avancée. Ouais. Donc oui, ils sont armés jusqu'aux dents.
Voilà, donc ça aussi, c'est... Pardon.
Et également au niveau...
du survol.
Aérien, voilà, il y a des drones qui survolent régulière. Enfin, tout le temps, il y a des drones qui sont là pour survoler et puis pour surveiller également la population.
Il y a une pression qui est mise également là parce qu'il y a une surveillance accrue. Et puis finalement, un état de menace, un état de guerre de basse intensité qui est constamment présent.
un état de violence, un état de pression, un état en fait qui leur empêche tout simplement de vivre, hein, parce qu'ils n'ont rien le droit de faire, juste...
Ouais. Je me demandais comment est-ce qu'il y a un rapport qui se fait, des liens qui sont faits avec la Cisjordanie, avec des personnes, y a-t-il des familles qui ont été séparées et puis qui peuvent quand même d'une certaine manière se voir, se rencontrer. Enfin, je veux dire, la Palestine, c'est effectivement une entité tout de même. Alors qu'en est-il des rapports entre les différentes zones, entre les personnes de Gaza et par exemple les personnes de la Cisjordanie?
C'est très difficile de circuler, bon, de sortir de Gaza, c'est très très difficile, et après d'aller encore moins en Cisjordanie, c'est encore plus difficile en fait d'aller là-bas. Donc la Cisjordanie, le problème de Gaza, c'est le blocus, et le problème de la Cisjordanie, c'est les checkpoints, et puis voilà, c'est la colonisation en fait qui grignote les terres, les territoires palestiniens. Oui. Donc les gens de Gaza ne peuvent pas aller en Cisjordanie, c'est très rare, ou alors c'est vraiment des cas quand c'est des maladies, ou alors des juste pour visiter des fois, mais c'est vraiment vraiment des cas très rares où c'est possible d'aller visiter la Cisjordanie.
Oui, d'accord, donc là je pense qu'on a quand même essayé en tout cas de donner la mesure de ce que ça voulait dire que de vivre à Gaza avec cet isolement sous armes que les gens ressentent au jour le jour. Dernière petite question concernant la sécurité dans Gaza, comment ça se passe? Est-ce que il y a quand même une police qui veille? Est-ce que la sécurité, finalement il n'y a pas trop de problèmes, ou est-ce que justement le fait d'avoir cet isolement et ce recroqueviment en soi, finalement fait que des personnes deviennent un petit peu nerveuses?
Il y a un taux d'agressivité effectivement qui est provoqué par cette situation, notamment chez les enfants. On est en train de travailler sur un programme de soutien psychologique, et on a vu en fait des chiffres qui sont très alarmants. Les enfants qui développent des comportements agressifs, ça commence à l'âge de 10 ans, et puis il y a 80%, enfin, je disais 30 à 50% des enfants qui présentent des comportements de détresse et puis de l'agressivité, autant à la maison qu'à l'école, qu'en dehors de l'école. Donc, c'est très difficile à vivre. Et la population sur place, il y a la sécurité sur place. Il y a toujours des autorités qui sont sur place, qui maintiennent l'ordre. Donc, c'est relativement sécurisé. Mmh. Mais les comportements, ils commencent à devenir... ils deviennent difficiles, en fait, je pense.
Oui, j'imagine. Mmh. Et puis, alors, tout ce qui concerne les pompiers, ce type d'infrastructure, la gestion des déchets, toutes ces choses-là, est-ce que tu en sais un petit peu? Tu sais comment ça se passe Enfin, je sais que depuis ici, c'est compliqué, c'est difficile de se faire une idée. Mais en même temps, je serais très curieux de savoir, est-ce qu'on arrive quand même à s'organiser d'une certaine manière, au mieux, dans ces conditions?
Ils trouvent le moyen de s'organiser, hein, donc ils n'ont pas, pas le choix de toute façon. Mais après, j'ai pas plus d'informations, j'ai vraiment pas plus de détails sur la question là, en fait.
Ouais, tout à fait. On va s'arrêter là concernant justement cette partie-là. Je crois qu'on a on a une vision maintenant un petit peu plus précise, un petit peu plus concrète de ce qui s'y passe. Alors, on va faire un petit jingle, ça va nous laisser quelques secondes de répit. On va reprendre notre respiration et puis on va parler de la Fondation Secours Humanitaire. C'est parti.
Vous comprenez, moi dans le fond, ça m'arrange de se les boucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. Je me fais de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers, vous comprenez? Et puis, je leur prends leur argent aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux, et que moi, je les aime, les animaux. J'ai pas droit mort, vous comprenez? Un peu d'argent, un boucher de temps en temps, un peu de soleil, et un peu d'amour.
www.libradio.org.
Donc voilà, nous voilà de retour Nous voici de retour dans les conditions du direct, ici depuis la plage Châteaubriand, en compagnie de Zerka et de Elsa. Alors Elsa, tu as écouté un petit peu ce qu'on a dit. Est-ce que tu aurais envie d'intervenir, de dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que, ce que l'on vient de dire, est-ce que ça te touche? Quel âge as-tu déjà?
Moi, j'ai 21 ans.
Ouais, donc tu es très jeune. Tu imagines vivre dans ces conditions-là? C'est incroyable.
Je l'ai un peu vécu. Parce que je suis orpheline, donc je viens du Vietnam. Et forcément, au Vietnam, c'est un peu comme la Palestine.
Il y a des analogies, il y a des choses communes.
Ouais. Comme la guerre, après la guerre, je sais, du Vietnam, ça a été très dur. Et c'est encore très dur parce que c'est pour ça, en fait, que j'ai jamais connu mes parents. Donc, j'étais adoptée à l'âge de 6 mois.
D'accord. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui a fait que tout d'un coup, tu es allé... est-ce que c'est toi qui es allé vers justement la fondation pour dire j'aimerais faire un stage là, ou comment ça s'est passé? Comment tu as découvert la fondation?
Alors, c'est vrai que moi, je fais partie d'une association qui est Grégory Le Marchal. Mmh. Et en fait, l'association Grégory Le Marchal, en fait, je la connaissais parce que j'étais très fan de Grégory, qui est mort le 30 avril 2007 suite à la mucoviscidose.
D'accord.
Et donc, à partir de là, j'ai fait un don et j'ai voulu sauver justement la mucoviscidose parce que ça m'a beaucoup touchée quand il est mort, parce que justement, enfin, actuellement, j'ai aussi 21 ans et il est mort assez jeune.
D'accord, ouais, donc effectivement, ça t'a rapproché et ça te donne cette conscience et cette envie, cette empathie et cette envie de te solidariser d'autres personnes. On reparlera de ça un autre moment clairement, parce que c'est effectivement des sujets extrêmement importants et qui touchent, bien entendu. Alors, revenons-en à la Fondation. Donc, 13 ans d'existence, la Fondation Secours Humanitaire. Je rappelle, le site internet, c'est www.secourshumanitaire.ch. 13 ans d'expérience dans le travail humanitaire. Alors, dis-moi, Zerka, comment est-ce que cette Fondation est née? Et qui en sont les initiatrices et les initiateurs?
Alors, c'est un groupe d'amis qui a lancé. Moi, ça fait un an que je travaille dans la Fondation, donc je ne peux pas vous donner vraiment, vraiment plus en détail. Mais c'est un groupe d'amis, en fait, qui se sont rassemblés, en fait. Ça devait être, il me semble, à suite à la première intifada 2001, donc 2001-2002. Et puis, ils ont lancé, en fait, l'initiative de récolter de l'argent pour pouvoir envoyer en Palestine. Donc, à la base, c'était une association. Et ensuite, en 2004, elle a pris la forme d'une fondation. Et leur objectif, c'était vraiment d'aider la population en Palestine et puis ensuite d'aider dans l'urgence les populations qui en ont besoin, comme on est intervenu également en Haïti ou alors auprès des réfugiés syriens.
D'accord. Ok, alors voudrais-tu nous égrener un petit peu justement les valeurs et les objectifs de cette fondation? En quelques mots, hein, je veux dire... Parce que l'idée, donc, effectivement, c'est de soutenir les populations locales en Palestine et notamment à Gaza. Oui. Et alors, comment est-ce qu'on le fait? C'est par des campagnes d'information, mais également, comme tu l'as dit, des campagnes où on essaie de récolter de l'argent.
Oui, c'est des campagnes d'information, mais surtout des campagnes de récolte de fonds, parce que c'est vraiment des projets humanitaires qu'on mène sur place. C'est vraiment une aide humanitaire qu'on apporte sur place. Et notre projet phare, en fait, le projet le plus important, c'est le programme de parrainage. Donc, on parraine des enfants, des orphelins en Palestine. Donc ici, le principe, ça consiste à trouver un parrain ici qui accepte de verser, en fait, tous les mois une participation qui est ensuite envoyée tous les trimestres à l'enfant sur place. Et là, c'est vraiment de l'argent qui est envoyé directement et que la famille reçoit ensuite pour subvenir aux besoins de l'enfant, à son éducation et puis à tous ses besoins, en fait.
D'accord. Et alors, comment est-ce que vous y... prenez-vous pour récolter cet argent? Est-ce que vous organisez une campagne de... Alors, est-ce que la campagne de récolte, elle se fait par Internet? Est-ce que les gens vous contactent? Est-ce que vous allez solliciter vous-même des partenaires, peut-être? Des mécènes des...
Alors ça, c'est la question, je pense que toutes les organisations humanitaires doivent travailler. Donc, c'est la question la plus importante. Donc, il faut faire preuve d'imagination. Et puis, tous les moyens sont possibles, en fait, pour pouvoir récolter les fonds. Mmh. Donc, nous, c'est essentiellement via Internet, via le mailing et puis par courrier, en fait. Donc, on envoie les courriers ou la prospection concernant le projet qu'on a. Et puis, on récolte des fonds de cette manière-là. On a également organisé un gala de bienfaisance à Genève. C'était en avril. C'était un gala, en fait, assez... je dirais de manière qui visait un public assez aisé. Hein. C'était organisé à l'Hôtel des Bergues. Et donc, ça visait aussi à financer un projet particulier. On organise des repas de charité plus modestes ou alors des journées également de sensibilisation, des journées de solidarité. Donc, on essaie d'organiser des événements locaux, mais également on a notre site internet ou alors des moyens multimédia pour récolter des fonds. On a l'ambition d'organiser aussi du crowdfunding pour un prochain projet. Donc voir pourquoi pas nous tenter notre chance là-dessus pour pouvoir récolter des fonds.
D'accord. Et dis-moi, au sein de la fondation, est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux membres, d'une certaine aide, ou là également, c'est plus vraiment des fonds dont vous avez besoin?
Des deux. Vraiment, si on peut avoir également des membres, ça serait bien également. Parce que c'est une... aujourd'hui, on a l'impression que chez les jeunes, en tout cas, l'engagement est très difficile, en fait. Hein. Donc, trouver des jeunes qui veulent s'engager et puis être responsables, en fait, et faire et mener des projets, parce que c'est pas juste venir assister à une réunion et puis repartir. Hein. C'est vraiment s'impliquer dans le projet. Ça, c'est difficile. Hein. Et je le comprends tout à fait, hein, parce qu'avec les études, et puis voilà, on a du mal à trouver du monde. Donc, si on peut avoir des membres, en fait, et responsables des gens, oui, on est preneur également. Et des femmes particulièrement, c'est vrai.
Et là, de quelle manière on prend contact? Alors, sur le site internet, il y a un formulaire, on va directement là et on prend
contact. Oui, sur le site internet, ils peuvent contacter, ou alors contact@secourshumanitaire.ch également.
Alors, y a-t-il autour de vous des alliés qui sont extrêmement opérationnels ici à Genève? Y a-t-il des associations de la société civile comme ça qui vous soutiennent et avec lesquelles vous avez des relations, disons, continuelles?
Alors, comme peut-être parce qu'on est musulmans, la plupart d'entre nous, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est très soutenu par toutes les organisations qui sont culturelles musulmanes, les mosquées ici ou sur toute la Suisse également. Nous dépendons vraiment des dons privés. C'est vraiment des gens.
J'ai compris.
Des gens qui nous donnent à chaque campagne, en fait, de l'argent. On a des fonds très limités. On a des charges très limitées. On est seulement 3 salariés à 50% en fait, à mi-temps. Et du coup, on essaie de limiter au maximum, nos charges pour que, voilà, on dépende d'aucun organisme en particulier. Voilà.
Alors, tu l'as dit, vous êtes 3 salariés seulement.
Oui.
Et à mi-temps en plus, trois. Y a-t-il des bénévoles un petit peu autour qui vous aident ponctuellement, ou c'est vraiment vous qui abattez tout le travail?
Ah, on ne peut pas faire tout ça sans bénévoles.
J'imagine.
On ne pourrait pas tout faire tout ça sans bénévoles. On a à peu près un réseau de 300 bénévoles en fait, en Suisse. Et on a un bon groupe qui est à Neuchâtel également, qui est très actif. Neuchâtel Bienne également. Donc sans les bénévoles, on ne pourrait pas en fait. Et on est toujours à la recherche de bénévoles.
Mmh. D'accord, alors ça c'est bien. L'appel est lancé. Alors Zerka Sarnoun, tu t'occupes du service parrainage,
oui.
Toi. Hein. Alors la question qui allait venir, c'est quelle est la campagne actuellement qui a cours, celle qui est le plus, disons, en opérationnel actuellement, et le service parrainage, comment est-ce que ça se passe?
Alors, la campagne, là, actuellement, là, on n'a pas de campagne on vient de sortir de la campagne Ramadan, je dirais, en fait, donc qui vient de finir. Et ensuite, la prochaine campagne, ça sera rentrée scolaire. Donc, ça va correspondre, on va faire ça, on travaille dessus, là, pendant l'été. Et ça va permettre, enfin, on va lever des fonds pour pouvoir financer, en fait, du matériel scolaire aux écoliers, en fait, à Gaza particulièrement. Donc, on leur offre un tablier et un cartable plein de fournitures scolaires. Donc, ça sera pour la rentrée. Et sinon, le service, le programme de parrainage, il fonctionne comme... Comme je disais tout à l'heure, nous, on cherche des parrains ici en Suisse ou en France voisine. Également, on a des parrains qui sont en France. Et tous les mois, en fait, ils vont nous donner une somme minimum de 50 francs. Ils peuvent aller au-delà comme ils veulent en fonction de leurs revenus. Et, et tous les mois, nous, on fait un suivi avec cet enfant-là. Tous les 3 mois, on va envoyer l'argent directement en Palestine. Et cet argent est distribué par nos partenaires sur place, en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie. Hein, donc, sachant que la majorité de nos orphelins, ils sont à Gaza. Mais on en a également en Cisjordanie. Et ça concerne des orphelins, des familles nécessiteuses et également des personnes souffrant d'un handicap, en fait. Donc, c'est 3 catégories de personnes qui sont parrainées chez nous. Et donc, cet argent est envoyé sur place et puis donné aux enfants ou alors aux familles concernées directement.
D'accord. Voilà. Et comment s'informe-t-on? Là aussi, également sur le site internet, hein, qui est très bien fait, il y a toutes les informations pour les personnes qui souhaiteraient devenir parraines et parrains.
Oui.
J'imagine que ça implique un choix qui est dans la durée.
Alors oui, effectivement, vous avez très bien fait de vraiment parler, de préciser ça. C'est un engagement. Le parrainage, c'est vraiment un engagement sur une période de minimum 6 mois. Parce qu'à partir du moment où la famille reçoit, elle attend après tous les mois de pouvoir recevoir, tous les 3 mois de pouvoir recevoir cette aide. Et vraiment, elle compte sur cette aide-là. Donc, si on n'est pas sûr de pouvoir donner de manière régulière, il y a des parrains qui donnent une fois par an, en fait. Et puis nous, on dispatche cet argent-là sur tous les mois et on va envoyer de manière régulière cet argent-là. Donc, le parrain peut payer à la fréquence qu'il veut, mais c'est vrai que s'il paye une fois tous les 6 mois, c'est un peu dommage pour la femme. Et dans ce cas-là, vaut mieux juste donner dans la caisse parrainage, qui est un fonds général que nous, après, on utilise pour l'orphelin.
Voilà. Voilà, que vous redistribuez vous-même.
C'est ça.
Y a-t-il là des rapports qui se lient entre les personnes par le biais, je ne sais pas, de petites lettres, si c'est possible, ou de choses comme ça?
Alors, au départ, on a mis en place un système de contact. Donc, le parrain, il a un numéro de téléphone, ou bien de l'association sur place, ou bien de la famille directement, donc il peut les contacter. Également, la famille sur place peut contacter également le parrain ici, juste pour qu'il y ait un suivi. Mais il me semble qu'il y a aussi, ce système a aussi des côtés un peu négatifs, et les autorités suisses non plus n'apprécient pas trop. Donc autant pour protéger le parrain ici que l'orphelin sur place. Donc voilà, on préfère limiter vraiment si on peut, qu'il y ait toujours un intermédiaire entre les deux, ou bien notre partenaire sur place, ou bien notre association sur place, notre association ici en fait. Ouais. Mais c'est vrai que là, on va mettre un frein sur ce contact direct entre le parrain et l'orphelin, ou alors le filleul sur place.
Tout à fait. On comprend très bien effectivement la pertinence de ce propos et le fait de dire justement... voilà, et c'est aussi bien que les personnes ici qu'elles le sachent, qu'effectivement ça n'impliquerait pas non plus de leur part peut-être un engagement, disons, sentimental qui pourrait être un petit peu difficile ou des choses comme ça. Le fait d'avoir une expertise et puis un groupe de personnes justement qui s'en occupent, eh bien, ça, à mon sens, j'imagine que ça aide aussi les personnes donatrices là-dedans. Ça les met en tout cas à l'aise par rapport à ça. En tout cas, l'information, elle est claire. Vous avez beaucoup de parrainages qui ont déjà cours, hein.
Le programme de parrainage génère 500 000 francs à peu près, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais cet argent, nous, on fait que transiter en fait, parce que nous, on touche absolument rien. On prend 30 francs de frais de gestion par orphelin, par dossier par an seulement en fait. Donc tout le reste, l'argent qui est donné mensuellement, comme il arrive, comme nous, on le renvoie directement sur place. Mais et là, on a 620 enfants, 9 familles, bon là, neuf familles parrainées. On va mettre fin à cette section parce qu'on aimerait, on veut pas que la famille elle dépende en fait. On veut essayer de mettre en place un projet de micro-projet en fait, pour les familles, pour les aider à obtenir en fait une autonomie financière
sur place,
directement. Ouais. Et puis également, on a 14 dossiers de personnes handicapées, et là on va encore recevoir d'autres dossiers en fait pour cette section là.
D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais j'aurais encore voulu savoir, selon vous, du point de vue de la Fondation Secours Humanitaire, quels sont, alors tu l'as dit, sous peu, à la rentrée, il y aura le lancement de la campagne école.
Oui.
Et y a-t-il d'autres campagnes comme ça que vous préparez, sur lesquelles vous êtes extrêmement attentif, parce qu'il y a une urgence absolue?
Oui, en fait, la campagne de soutien psychologique dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est un projet qu'on est en train de lancer. Comme je disais tout à l'heure, le côté psychologique, la dimension psychologique, on n'y fait vraiment pas attention, et même le public n'est pas forcément très sensible à cette cause-là. Quand on dit acheter du matériel médical pour un hôpital, on va tout de suite voir le manque, et puis on va essayer de financer ça. Mais quand on dit que c'est un problème au niveau comportemental, c'est très difficile à expliquer et puis à décrire. Et donc les gens, ils ont un peu moins de mal à adhérer. Les autorités également, elles ne donnent pas forcément de l'importance à ce projet. Donc comme je disais tout à l'heure, les enfants, ils sont confrontés à ce contexte très, très, très difficile, et ils doivent vivre dans ce contexte-là. Alors notre projet, ça a été de lancer lancer ce projet soutien psychologique auprès des enfants, c'est renforcer la résilience des enfants de Gaza. Et grâce à ce projet, c'est vraiment de les aider à guérir, ou alors à soulager en fait les blessures un peu plus profondes, les traumatismes qu'ils ont connus depuis leur enfance.
Et qui doivent être nombreux, parce que 12 ans de blocus, évidemment, ça laisse des traces.
Voilà. Et ce projet, il est mené en partenariat avec l'UNRWA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés, des écoles, en fait, essentiellement. Sachant que cette école, elle a été boycottée par les États-Unis à la fin 2017, et tous les fonds, ils ont été coupés, les fonds dont elle dépendait essentiellement. Donc, elle est très en danger, cette agence, et elle risque de fermer, et les écoles, enfin, il n'y aura plus personne pour donner l'éducation pour l'instant à ces enfants.
Donc on comprend bien qu'effectivement n'importe quel don est extrêmement important,
ouais,
et immédiatement opérationnel, puisque, ouais, comme tu l'as dit, vous ne prenez rien en fait. Vous, c'est vraiment tout est versé là-bas directement.
Tout est versé là-bas, oui. Ouais.
Alors on le rappelle, le site internet c'est www.secourshumanitaire.ch.
Ouais.
Le prochain lancement de campagne, ce sera pour les écoles à la rentrée, et puis ensuite celle dont tu viens de nous parler. N'hésitez pas à nous solliciter, nous avec la radio, on vient volontiers pour un lancement de campagne, et même plusieurs d'ailleurs. J'avais encore une dernière question avant, ouais, que peut-être des questions surgiraient d'ici, mais voilà, mais quoi qu'il en soit, j'en aurai encore une que je voulais te poser tout à l'heure. Alors, de nouveau, c'est une question un petit peu plus générale, donc à toi de voir si tu souhaites y répondre ou pas, mais je me demandais si effectivement, du côté d'Israël ou du côté de l'Égypte, il y avait peut-être même une infime aide, que ce soit de quelques institutions ou d'un peu de la société civile, d'associations, ou est-ce qu'il y a vraiment cette sensation d'isolement absolu? Voilà.
Ouais, c'est l'isolement absolu. L'isolement, ouais, c'est l'isolement absolu. Il n'y a pas du tout d'aide. L'Égypte, en fait, depuis, voilà, il bloque. Il y avait des tunnels qui étaient creusés en dessous entre la frontière égypto, enfin, entre Gaza et l'Égypte. Et puis, ils ont totalement été détruits par le gouvernement égyptien actuel. Donc, il n'y a plus vraiment moyen de sortir. Il n'y a pas de collaboration au niveau de l'Égypte.
Ouais.
Et bah, l'Israël, c'est eux qui oppriment. Donc,
ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Et puis, côté ONU, communauté internationale, comment est-ce que toi, tu vois la situation actuellement et comment tu vois ces développements? Est-ce que tu es quand même... Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ou bien là c'est vraiment compliqué et c'est vraiment bloqué?
Plus on attend, plus ça devient difficile en fait. Donc c'est vraiment, il faut agir maintenant. Et puis c'est la question, elle est politique. L'humanitaire, on a beau essayer, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui aident, il y a beaucoup d'organisations qui interviennent en Palestine. C'est une cause vraiment qui attire beaucoup en fait le public. Donc l'humanitaire, c'est bien pour un certain temps, mais la question qui vraiment vraiment peut mettre fin, enfin comment mettre fin à cette situation, c'est vraiment des décisions politiques qui doivent être prises, et puis des violations qui sont commises, qui doivent être condamnées, et puis arrêtées tout simplement. Donc ça, c'est au niveau politique, et ça, on peut pas l'arrêter. Donc c'est ça le moyen vraiment de retourner, renverser la situation.
D'accord. Zerka Sahnoun, du service parrainage de la Fondation Secours Humanitaire. Je te remercie beaucoup.
Merci
d'avoir consacré ce temps. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour la suite des opérations et pour avoir des nouvelles, en tout cas des prochaines campagnes. Merci
en tout cas pour vous.
Et puis Elsa, merci beaucoup à toi. Et à une prochaine fois, j'espère.
Merci.
Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on revient juste derrière avec nos prochains invités, un papa et une fille, qui sont déjà parmi nous et qui vont venir parler à la radio, je pense, ensemble. Il se peut. On va voir ça. Allez, petite pause musicale et puis on revient juste derrière.